RCF.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Richard Dessart de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne et je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Namur quand c'était la guerre. Alors aujourd'hui on va partir à la rencontre de monsieur Danilo Buda et Danilo c'est une personne que j'étais vraiment content de rencontrer à nouveau. Pourquoi je dis à nouveau? Parce que avec notre ASBL il y a 7 ans, c'était en 2014, le temps passe vite. On avait déjà récolté des témoignages, c'était sur le bombardement du 18 août 44, et à ce moment-là, j'avais déjà eu la chance de rencontrer Danilo, qui m'avait raconté vraiment pas mal de choses sur ce bombardement, des choses assez tragiques, parce que c'était déjà un jeune homme, et lui, il avait été réquisitionné pour déblayer les corps à la suite du bombardement, donc il a vu des horreurs sans nom. Et c'est une rencontre qui m'avait beaucoup marqué. D'ailleurs, je vous invite, je fais un peu d'auto-publicité, mais je vous invite à découvrir le site internet qu'on avait fait à l'époque et qui est toujours en ligne aujourd'hui, qui est www.18ou.be. Sur ce site-là, en fait, vous trouverez plus de 25 témoignages de personnes qui ont connu le bombardement du 18 août 44. À chaque fois, c'est placé sur une petite carte, donc vous pourrez retrouver presque rue par rue à Namur ce qui s'est passé. Il y a aussi plein de photos, il y en a plus de 70. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en apprendre plus sur le bombardement du 18 août 44, vous pouvez aller sur ce site www.18ou.be et vous retrouverez notamment le témoignage que j'avais récolté de Danilo à ce moment-là, il y a 7 ans. Et donc j'étais évidemment très heureux de pouvoir le revoir 7 ans après. Surtout qu'ici, je l'ai rencontré, Danilo venait de fêter son anniversaire quand j'ai fait l'interview ici. Et voilà, pour ne rien vous cacher, il a quand même eu 98 ans. Donc c'est vraiment pas mal. Et c'est un peu une force de la nature, cet homme-là, parce que voilà, il a quand même des difficultés de santé au niveau de la vue, au niveau de la mobilité, mais il a une mémoire incroyable. Il est hyper dynamique. Franchement, je vous souhaite à tous, à toutes et à tous de pouvoir vieillir comme lui. Moi, c'est une personne que j'admire. Et donc, ici, on va entendre un peu son témoignage. On va parler un peu du bombardement aussi. Mais il va aussi nous expliquer les difficultés qu'il a eues, notamment en tant qu'Italien en Belgique, puisque l'Italie était évidemment du côté de l'Axe, du côté de l'Allemagne. Et donc, c'était évidemment pas toujours bien vu d'être un Italien en Belgique. Vous verrez qu'il a eu quelques difficultés à ce niveau-là. Et voilà, c'est un témoignage évidemment très intéressant, surtout que c'est... Voilà, souvent on a des enfants qui ont pu témoigner pour nous. Ici, Danilo, l'air de rien, il avait déjà une bonne vingtaine d'années au moment de la guerre. Donc évidemment, c'est un témoignage encore différent. Hein. Au début de la guerre, il habitait à Belgrade avec ses parents. Et en 44, il se mariait, il avait une petite fille. Donc c'est à une autre histoire, évidemment, que les gens qui étaient uniquement enfants au moment de la guerre. Eh bien donc, je vous laisse en compagnie de Danilo.
Et j'étais place de l'Ange. J'ai été réquisitionné pour transporter les blessés et les morts. Les blessés à Sainte-Élisabeth et les morts dans la cour de Saint-Aubin.
Au moment du bombardement.
Au moment du bombardement. Enfin, quand le bombardement a eu lieu, hein, puisqu'il y a les morts et les blessés. Et là, j'étais place de l'Ange. Quand ils ont bombardé, j'étais place de l'Ange. J'ai entendu les avions qui passaient, et puis le bombardement. Mais j'ai été projeté dans le salon, j'étais projeté, n'est-ce pas? Et j'étais au début, au bout. Hein. C'était terrible. Hein. Et alors, je suis sorti pour savoir ce qu'il en était. Il y a eu un second lâcher de bombe. Mais là, j'étais dehors de l'immeuble. Et tout de suite après, on a hurlé, crié de tous les côtés, et il fallait aller place d'armes, mais avec des morts. Hein. Place d'armes, il y avait des morts partout. On ne savait pas marcher sans trébucher sur un mort ou un blessé, ou, etc. C'était terrible, terrible, terrible. Ça a été terrible.
Et vous, à ce moment-là, donc vous travaillez place de l'Ange
Je travaillais place de l'Ange.
et vous habitiez.
J'habitais rue de la Croix. Et quand c'est arrivé que je me suis relevé place de l'Ange, je croyais que la rue de la Croix, que tout ce côté-là n'existait plus. Parce qu'il y avait une fumée, on ne voyait plus à 1 mètre.
Et je me rappelle que vous m'aviez dit que vous aviez très peur parce que votre fille venait de naître.
Oui, je venais d'avoir ma petite fille, hein. Hein? Et la rue de la Croix, je ne la voyais plus. Donc ma femme et ma petite fille, mais enfin, ça a tout de suite évolué, hein. Ça a tout de suite évolué. Hein. Et alors, on criait des gens en bien portant qui devaient aller place d'armes. Alors, place d'armes, ça c'était. Oh, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Vous vous rendez compte? Des morts partout, partout. Vous ne saviez pas faire 1 mètre sans que. Ou un blessé, ou un mort. Et on les transportait, on avait amené une charrette vide au-dessus. Hein. On transportait tout le monde. Mais en arrivant en rue de Bruxelles, les morts, on les mettait dans la cour de Saint-Aubin, et les blessés, on les transportait à Salzine. Mais à Salzine, on ne savait pas où mettre les blessés. Hein. Et il y en avait tellement dans tous les couloirs. C'était épouvantable. Enfin, s'il faudrait décrire ça, ça a été vraiment terrible dans ma vie. Terrible dans ma vie. Et la chance que ma femme et ma petite fille n'avaient rien, que la rue de la Croix existait, hein, toujours. Hein. Et là, j'ai mon ami qui a été tué rue de Fer par la bombe qu'on a lâchée, là. On a lâché une bombe rue de Fer. Et lui, il travaillait dans le garage. À ce moment-là, c'était forte. Il est arrivé sur la rue, et là, il y a eu une bombe qui est tombée, là. Une bombe rue de Fer et une bombe aux quatre coins. Aux quatre coins, mais dans la rue Mercurier.
Vous êtes resté longtemps à devoir vous occuper des blessés, des morts.
Tout de suite, parce que je suis sorti du salon. Hein, on a encore bombardé une fois, hein, deux bombes, je ne sais pas qui est ça. Et à ce moment-là, je suis tombé dans les premières marches de l'escalier qui descendait à la cave. Et c'était une erreur parce que j'avais une bombe, la cave. Enfin, vous savez, sur l'instant, on ne réfléchit pas. Hein. Et alors là, je suis ressorti et on a crié secours, au secours. Et je suis arrivé place d'armes. Place d'armes, c'était pas possible. Vous ne pouvez pas décrire ça.
Nous y voilà. Après l'espoir d'un monde meilleur et tant de rêves chantés en cœur, on se réveille en pleine horreur. Nous y voilà, l'histoire a remis à l'honneur les vieux démons des dictateurs qui marchent sur des peuples en pleurs. Arrêtez, 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 arrêtez. Au nom de la vie, au nom de la vie même, tout ce mal que l'on sème, tous ces germes de haine qui va les récolter. Trop de coups, trop de secousses, on en a la nausée. Ces gens, la mort aux trousses, rejetés pour chasser. Est-ce que l'amour repousse là où la terre a saigné? Est-ce que l'amour repousse là où la terre a saigné? On se fait peur. nous y voilà, en plein air intersidéral. On a un pied sur une étoile et l'autre dans un bain de sang. Nous y voilà, on a changé de millénaire, escorté par les militaires. On repart mille ans en arrière. Mal, le monde a mal. Toujours une guerre plantée dans le cœur. Mal, le monde a mal. On est tous frères, mais dans le malheur. Le monde a mal. Mal, le monde a mal.
J'ai l'impression qu'on m'avait raconté, mais je ne suis plus sûr, qu'à un moment, on vous avait dénoncé auprès des Allemands pour quelque chose que vous n'aviez
pas
fait.
Ah oui, ça c'est vrai, ça. Oui, on m'avait dénoncé pour un vol de bombes. Il faut oublier, cette époque-là, mes parents habitaient Belgrade, rue Sultanov. J'habitais là, et moi j'habitais là aussi, hein. Et le soir, quand je rentrais du travail, je venais par Salzine. Salzine, tout le long du chemin de fer, là, il y avait un, parce qu'il y avait un raccordement avec le Salzine, hein. Et je passais le pont de Sambre et je traversais les voies pour arriver à la maison. Et un jour, je traversais les voies et quand j'arrive sur la route pour rentrer chez moi, il y avait au milieu de la rue un énorme paquet de tout ce qu'on peut imaginer. Et là, il n'y avait pas une âme. Aussitôt que je suis arrivé près du paquet, il y avait au moins 10 personnes qui sont arrivées et qui ont dit qu'on m'a donné un sac de farine et que je la ferme. Et alors, ce sac de farine, évidemment, j'en ai transporté un peu chez ma copine, qui est devenue ma femme, rue Saint-Nicolas, hein, et j'ai été dénoncé comme voleur, enfin, voleur, que j'avais volé de la farine des Belges. Et allez, c'était pas vrai, hein, c'était pas vrai. Moi, on m'avait donné la farine qu'on avait volée dans les wagons allemands. Et ça, c'était pas dans la guerre, hein. Je suis allé en prison. Les Allemands m'ont mis en prison, hein. Et ils m'ont mis en prison comme j'étais contre eux, donc. Hein. Mais c'est pas vrai, j'ai jamais été contre eux, ni contre personne. Mais j'ai été en prison quand même. Et alors, en prison, j'ai passé deux fois au conseil de guerre, à Charleroi. Il y en a beaucoup qui sont morts, hein, là. On sortait quand on est sorti de Charleroi, là. C'était un bureau allemand, hein. Des gens qui étaient condamnés à mort et qui allaient retourner à Namur et être fusillés.
Ouais. Et vous êtes resté combien de temps alors en prison ?
Prisonnier, je suis resté une quinzaine de jours.
Mais quand même.
Oui. Et alors, attendez, hein, parce que j'ai eu de la chance. Hein. Je n'avais rien fait. On m'accusait de quelque chose, je n'avais rien fait. Et alors, j'ai passé au conseil de guerre, le mort. J'ai été renvoyé chez moi pour complément d'enquête, c'est ça, oui. Et alors, la deuxième fois, j'avais reçu en prison le rappel d'Italie pour faire mon service militaire, qui était en guerre avec les Allemands, hein, à l'époque. Hein. Et alors, Le tribunal m'a relâché en disant qu'on me relâchait parce que je devais aller faire mon service militaire et qu'il espérait que j'allais faire mon devoir. Et le lendemain que je suis rentré, le gouvernement italien est tombé.
À ce moment-là.
Il n'y avait plus de. Et si vous voulez regarder la vraie histoire, vous allez retrouver ce que je vous dis. Et alors, et voilà, j'ai été appelé aussi une fois, parce que les Belges étaient appelés pour être surveillants des postes qu'on faisait sauter pendant la nuit. Hein. Et j'étais pris avec des Belges et j'ai monté la garde. Vous savez, le pont de chemin de fer qui va à Charleroi et qui va à Bruxelles. Enfin, la place qui va vers le bas de la ville de Salzine, hein, et qui monte là-bas, il y a un tunnel là, hein,
oui.
Chemin de fer. Et bien là, oui. J'ai dû monter la garde là, avec d'autres. Et quand on est rentré chez soi, on a été mis on a été pris avec les Allemands qui faisaient des rondes, hein, parce que vous ne pouvez pas sortir la nuit. Hein. Alors, comme on rentrait le matin, hein, et alors, évidemment, je dis oui, on a été monté la garde, et alors on a pu rentrer chez soi. C'était une sale époque. Hein. C'était une époque terrible, terrible.
Est-ce que vous croyez que vous avez été dénoncé à ce moment-là parce que vous étiez italien ?
Oui, sûrement, oui. J'ai été dénoncé alors que je n'avais rien fait. Rien du tout.
Donc vous avez été deux fois, en fait, en prison ?
Oui, deux fois. En prison pour les Belges et en prison pour les Allemands. D'ailleurs, si vous voulez regarder de l'époque, ce qui s'est passé, vous allez me trouver dedans. Hein. Oui.
Donc une fois, c'était avec l'histoire de la farine.
Oui.
Et l'autre fois, c'était pourquoi alors ?
Détention d'explosifs. Détention d'explosifs. On avait retrouvé des explosifs près de chez moi. La rue du Tonneau, c'est une rue qui longe le chemin de fer et qui va de Sardine-les-Moulins à René. Hein. Et là, il y avait des explosifs qu'on avait pris dans les camions. Et on m'a dénoncé comme quoi que je l'avais fait. Je l'avais pas fait.
Et vous les aviez vraiment, les explosifs, ou pas ?
Non.
Non.
Bah non. Non.
Vous ne vouliez pas vous mêler à tout ça
Non. Non.
Ça créait peut-être des jalousies ou quoi ou...
Ah, sans doute, oui. Oui. Et je sais qui, la femme, je ne sais pas, elle n'existe plus. Hein. Mais c'est une femme qui m'avait dénoncé.
Ah, vous avez su qui c'était après ?
Oui, après la guerre. Oui. Oui, je sais qui c'était.
Et après, quand vous êtes... vous étiez coiffeur. Le fait d'être italien en étant coiffeur, ça ne posait pas problème à ce moment-là ?
Aucun problème. Non, aucun. Ce qui comptait, c'était ce que vous faisiez. Mm. Ce que les autres ne savaient pas faire.
Et est-ce que des fois, vous étiez amené à coiffer aussi des Allemands ou pas ?
Non.
Non.
Non. J'ai jamais été coiffeur pour hommes. Hein.
Ah, c'était pour dames uniquement.
Pour dames.
Où vas-tu, l'ami ? Ce pas, je m'en vais à la guerre. De quelle guerre parles-tu, mon gars? Je ne sais pas, je n'en ai que faire. Car on se bat toujours quelque part. La guerre commence à me hanter. Dans les chansons même, on s'égare, c'est si facile de la chanter. D'où viens-tu, l'ami de ce pas? Je reviens de la guerre. De quelle guerre? Parles-tu, mon gars? Je ne sais plus, je n'en ai que faire. Je ne sais plus s'ils étaient noirs ou bruns ou
Je me souviens de leur regard, je me souviens de leur pourquoi. Je me souviens d'un ciel de mort, d'un bleu à vous faire croire en Dieu. S'il n'y avait ce matador qui vous disait entre les yeux. Je me souviens d'une lumière qui scintillait de mille larmes. Je me souviens d'une prière qui s'élevait de ce vacarme. Et on se bat toujours quelque part, la guerre commence à me hanter. Dans les chansons même, on s'égare, c'est trop facile de la chanter. Je ne sais plus si j'ai tiré, si j'ai tué, et combien de fois mon souvenir est déchiré. Je sais que je n'étais plus moi. Et je vous reviens pour vivre un peu, pour commencer à aimer le jour, pour me brûler à d'autres feux, pour écouter des chansons d'amour, pour oublier que l'on se bat toujours quelque part. Et on se bat toujours quelque part. Et on se bat toujours quelque part. On se bat toujours.
Au moment où la guerre a commencé, vous étiez déjà coiffeur?
Oui, 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 j'étais coiffeur. Et quand la guerre s'est déclarée, j'étais chez M. Rossi, qui avait un salon de coiffure, rue Humile-Cuvelier. Et en 40, la rue Humile-Cuvelier était bombardée. Hein. Et alors, quand je suis revenu de France, de Montpellier, il était installé à Place de l'Ange. Et c'est là que j'ai continué à travailler chez lui.
Et donc, au moment où la guerre s'est déclarée, vous êtes parti en exode?
Oui, oui, en exode, oui. On a évacué. Et on est parti à pied, et alors on a pris un train qui partait qui transportait un tas de monde qui évacuait vers le midi de la France. Et on a pris ce train-là, qui s'est arrêté à Paris. Il s'est arrêté au moins, oui, 3-4 heures à Paris. Et alors de là, on est parti, on a changé à Montpellier. Et de Montpellier, on nous a mis dans des charrettes et des voitures, et nous a transportés dans les faubourgs, dans tous les villages des alentours. Et moi, j'étais à Saint-Pargoire. Saint-Pargoire, qui existe toujours d'ailleurs. Parce que après la guerre, on est allé une fois dans le nord de l'Espagne, et on est passé par là. Et j'ai retrouvé là où j'avais vécu pendant la guerre. Oui, c'était épouvantable.
Et quand vous êtes parti en exode, c'était avec vos parents à ce moment-là?
Oui, avec mon père. Ma mère était morte.
D'accord.
Elle est décédée. Mon père, mon frère et ma sœur.
Vos parents sont nés en Italie alors?
Moi, je suis né en France. Mon frère est né en Italie. Et ma sœur est née en Belgique.
D'accord.
Ah oui. C'est comme ça.
Mais donc, en tant qu'Italien, vous n'étiez pas réquisitionné pour faire la guerre en tant que soldat?
Non. Si, j'ai été réquisitionné. Hein. Oui, mais après, la chose qui est de Charleroi, le consulat m'a appelé pour une visite médicale, bon pour le service. Et alors, je suis retourné à la maison. Et le surlendemain, L'Italie a été chaussée, hein. Il n'y avait plus de gouvernement, il n'y avait plus rien. Mussolini s'était échappé, ou je ne sais pas, je ne me souviens plus exactement. Mmh. Comme il n'y avait plus de gouvernement, il n'y avait plus de choses, etc., j'ai jamais été rappelé. Hein. Mmh. Mais écoutez, c'est extraordinaire ça. Hein. Donc, j'ai été appelé en France pour mon service militaire. et à la visite médicale, bon pour le service, et j'avais logé à 7 la nuit. Et le lendemain matin, la France avait fini avec l'Allemagne,
Avec.
l'armistice. Hein? Et on m'a renvoyé sans faire. Et alors, après l'Italie, ça a été après. Et là, je ne l'ai pas fait non plus. Hein? Et alors, j'ai reçu la nationalité belge. L'avocat avait dit, avec ton comportement pendant la guerre, tu demandes ta nationalité, tu l'auras sûrement tout de suite. En effet, j'ai eu tout de suite. Ça fait que je suis belge, hein, moi.
Après la guerre, ça alors, que vous
Après
avez.
la guerre, oui. Oui, après la guerre. Mais j'ai été rappelé aussi, hein, pour faire mon service militaire. Mais j'étais trop âgé. Et à ce moment-là, j'habitais toujours rue de la Croix.
Que souhaiteriez-vous que les jeunes retiennent de cette période qu'a été la Seconde Guerre mondiale?
Qu'ils agissent comme moi. Qu'ils agissent comme moi. Parce que c'est malheureux à dire, mais ceux qui ont pris un côté de vengeance ou je ne sais pas quoi, ils n'ont pas été gâtés. Ils n'ont pas été gâtés. Non, ils n'ont pas été gâtés.
De manière générale, quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes?
Ils aient confiance en eux pour commencer et être toujours honnête. C'est ce qui m'a sauvé, moi, l'honnêteté. Vous ne trouverez jamais personne qui veut dire quelque chose. S'il le dit, c'est vraiment contre-cœur ou pour se venger de quelque chose, je ne sais pas. Mais moi, non. Il faut être honnête. Moi, c'est ce que j'ai toujours été toute ma vie.
Et voilà donc pour le témoignage de Danilo Buda, qui a 98 ans aujourd'hui et qui en a vécu des histoires pendant la guerre. Et vous savez, évidemment, ici, on fait du montage, c'est un peu raccourci, hein, il faut tenir le rythme, hein, dans une émission de 30 minutes. Mais tous ces témoignages, ils vont être retranscrits par écrit donc, et ils vont se retrouver sur notre site internet www.namuranguerre.be. Pour le moment, ils n'y sont pas encore. Ce sera dans le reste de l'année, à la fin de l'année que ce sera fait. Et à la fin de l'année, on éditera aussi le livre qui recueillera les témoignages. Donc n'hésitez pas à rester informé. Vous pouvez notamment suivre notre page Facebook qui se nomme ASBL Namur INC. Là-dessus, vous pourrez suivre toutes les informations en lien avec le projet Namur en guerre, mais aussi en lien avec les autres activités de notre ASBL. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis déjà à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on sera en compagnie de Madame Francine Pirot, qui était, elle, du côté de Bouges. Voilà, merci beaucoup. Prenez soin de vous. À bientôt.